Français.
Sauf événement imprévu.
Les rumeurs, les calomnies, les ragots.
Les armes vont parler.
Nous vous proposons tous les 15 jours de dresser un portrait géographique, mais politique, donc géopolitique, de l'agglomération de Montpellier. Nous allons donc diverger, sans se fâcher, à propos des rivalités de pouvoir ou d'influence qui existent au sein d'un territoire. En l'occurrence, notre agglomération, celle de Montpellier, présidée par l'illimité Jean-Pierre Moore. Quels sont les enjeux entre une ville-centre qui tend à se mégalopoliser et des communes plus ou moins périphériques qui parfois s'endorment sur leur laurier d'antan? Après avoir écouté la reine-mère de Montpellier, Hélène Mandrou, et les maires des frontières orientales, nous partons en campagne vers les marais proches de la capitale. Et allons prêter grande attention à ces messieurs les édiles des étangs, au carrefour, mais au champ d'un côté, sans oublier le petit village gaulois qui n'en finit pas de se morfondre de la disparition de son pépone. Messieurs les maires, bien le bonjour, la parole va être à vous. Bonjour à Christian Valette, le maire de Pérol, qui de ses cabanes nargue le traître, la traître palavasienne. Monsieur Valette, bien le bonjour.
Bonjour.
Bonjour à Noël Segura, le maire de Villeneuve-les-Maguelones, qui se singularise face à l'association plurielle. Bonjour. Noël Segura.
Bonjour.
Et puis bonjour à Cyril Meunier, le maire de Latte, qui valse dans l'agglo.
Bonjour.
Est-ce que vous voulez bien, juste en deux mots, nous présenter votre commune? Est-ce qu'elle a encore aujourd'hui une identité?
C'est à moi que vous posez les questions.
Ah bah oui, bah par exemple, on va commencer Cyril Meunier, alors, de Latte.
Oui, bah, je suis très étonné que vous me posiez cette question, parce que Latte, c'est la deuxième commune de l'agglo. Ouais. Est-ce qu'elle a une identité? Je ne sais pas. Elle a un musée qui est l'un des musées les plus importants du bassin méditerranéen. Elle a une équipe de basket qui caracole en tête du basket féminin. Elle a un théâtre qui est l'un des seuls théâtres d'une commune de moins de 20 000 habitants. Et au niveau de son identité, sur tout ce qui est constitutif de l'identité d'une commune, aussi bien sur son territoire que sur son aménagement, j'ai l'impression qu'elle a une identité. De toute façon, les Latois sont fiers d'être Latois, au même titre que leur maire.
Bon, donc jusqu'à tout va bien.
Elle présente quand même la particularité.
Tout va bien et ça va continuer à aller bien.
Bon, la commune de Latte présente quand même une particularité, c'est que c'est la première agglomération en tant que commune. Avec Bois-Rargues et
Morin. C'est évident que c'est une particularité qui est très difficile à gérer.
C'est l'addition de trois communes, en quelque sorte.
C'est pas trois communes, hein, parce qu'à l'origine, ça n'a toujours été que des quartiers. Mais c'est vrai qu'elle a une particularité qui est très dure en matière de gestion, c'est qu'on est réparti en trois villages. On a à peu près 18 000 habitants, on en a à peu près 10 000 sur la centre, on en a 3 000 sur Bois-Rargues, 3 500 à peu près sur le quartier de Morin, et on en a 1 200 qui sont dans les écarts. Donc c'est une commune très dure à gérer.
Historiquement, Latte est même très antérieure à Montpellier, quoi.
Ah oui, j'ai fait référence tout à l'heure au musée. Le musée, c'est la chapelle.
Alors, en l'occurrence, est-ce que c'est le cas aussi pour Pérol? Est-ce que Pérol a une identité, un tel passé?
Alors, il est évident que Pérol a évolué. Si on prend ces 50 dernières années, Pérol n'est plus le petit village de pêcheurs et d'agriculteurs qu'il était à l'époque. On est passé de 1000 habitants à 9005. Et c'est vrai que des choses ont évolué, mais on a quand même essayé de garder notre identité au niveau de notre culture. Cette culture traditionnelle, basée, si vous voulez, autour du taureau, qui perdure dans notre commune et qu'il est très dur de maintenir, d'ailleurs, actuellement. Mais on a encore quand même, je dirais, cette culture et cette âme qui, bien évidemment, comme vous l'avez dit, se fait autour du taureau, autour des étangs. On a cette capacité, si vous voulez, de pouvoir garder ce qui a fait notre identité à l'époque.
Oh, est-ce que c'est vrai aussi pour Villeneuve-les-Maguelones, une vieille commune médiévale? Est-ce qu'elle a encore aujourd'hui une identité? Est-ce que ce n'est pas quand même quelque part un peu un village dortoir, non?
Non, pas du tout. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est fiers d'avoir un bijou dans un écrin, qui est la cathédrale de Maguelone, deuxième cathédrale après celle de Rome. Ensuite, nous avons trois caveaux avec du bon vin, et vous, tout à l'heure, vous le dégusterez. Nous avons 6600 hectares de zones humides, avec une faune 250 espèces d'oiseaux, qui viennent se reproduire ou seulement nous saluer, parce qu'on les accueille, parce qu'on a tout mis en œuvre avec le cible justement pour amener de l'eau douce à nos étangs, avec le désembâclement de la Mousson, avec beaucoup de choses qui se font autour de nos étangs, la décabanisation, plus de 400 mobilhomes et masés ont été détruits, ce qui nous permet de le rendre aux promeneurs, ce qui nous permet aussi de les rendre à la faune et à la flore, et ce qui nous permet tout simplement de définir un territoire pour nos zones humides.
Vous n'avez pas le même problème à Pérol, ça, le problème de cabanisation aussi ?
Alors, on n'a pas ce problème, si vous voulez, aussi aigu qu'à Villeneuve-les-Maguelones ou ailleurs, mais on a quand même aussi quelques problèmes de cabanisation avec des constructions qui se sont faites à l'époque, je dirais...
Est-ce qu'on parle des cabanes, de Pérol quand même ?
Ah non, les cabanes de Pérol sont...
À l'origine, c'était...
À l'origine, c'était des cabanes de pêcheurs, hein, et puis après, ça s'est urbanisé, et actuellement, je dois dire qu'il n'y a pratiquement plus de pêcheurs, on doit en avoir exactement à Pérol 2 ou 3.
D'accord, à Villeneuve-les-Maguelones, et à Latte, non, il n'y a pas d'histoire de cabane là.
Si, on en a eu, parce qu'on a un espace naturel qui est très important, l'espace naturel du Méjean, hein, qui couvre toute la partie nord de l'étang du Méjean. On a eu quelques difficultés à retirer quelques cabanons, mais ça s'est vite retiré. C'était surtout des cabanons liés à l'utilisation de terrain sur la zone de Saint-Sauveur en dessous le musée, où il n'y avait pas d'habitation. C'est, les gens s'en servaient un peu comme des potoirs.
S'il y avait une problématique en commune entre les 3 communes, ce ne serait pas justement l'équilibre, la recherche de l'équilibre entre urbanisation et environnement ?
Je crois que la première préoccupation qu'on a, c'est, comme on vous l'avait dit, c'est que nous sommes des communes littorales d'étang. Donc là, je reprends ma casquette de président du CIBLE, hein, qui est le syndicat qui couvre les étangs palavasiens et le Lez et la Mousson. On a une problématique de gestion des étangs, évident, et des espaces naturels qui sont autour. Ça, c'est notre première problématique. On n'a pas de problématique, enfin, je ne sais pas ce que vont dire mes collègues, on n'a pas de problématique en matière d'aménagement parce qu'on sait où on va. Les élus qui ont des problématiques d'aménagement, c'est les élus qui ne savent pas où ils vont et qui ne maîtrisent pas leur développement urbanistique. À partir du moment où vous avez un plan sur à peu près 30 ans, qu'on a grâce au SCOT de Montpellier, à partir du moment où on structure notre développement urbain sur des grands projets tels que celui de l'avenue de la mer ou celui du quartier Ose, nature urbaine que j'ai sur ma commune avec Montpellier, vous savez où vous allez et vous maîtrisez. Le pire en matière d'urbanisme, c'est quand les élus, les maires, ne maîtrisent pas l'urbanisme de leur commune. Après, ce sont des choix, il faut les assumer, il faut les modifier quand on voit qu'ils ne correspondent pas aux attentes de la population. Mais on a des plans cadres, en particulier avec le SCOT de l'agglomération de Montpellier, qui nous permettent d'être assez sereins et au moins d'être les patrons.
Et vous n'avez plus de problème en termes de zones inondables ?
Ah ben,
c'est un gros problème quand même.
Non mais j'espère que vous vous foutez de moi. Vous avez dit que
ça s'appelle provoscopie. Hein.
Ah oui d'accord, c'est une provocation.
Je crois que le point le plus haut, c'est les 3 territoires des 3 communes concernées, je crois que c'est 25 mètres.
Oui, mais bah, attendez, les pires pessimistes disent qu'à 50 ans, la mer va monter d'un mètre 50 à 2 mètres. Donc il nous reste encore 23 mètres pour être au sec.
Non, mais soyons très clairs.
Moi, je vous réponds parce qu'a priori, je commence à avoir à peu près saisi le style de l'émission. Je suis arrivé en retard, je vous prie de m'excuser. Donc, autant que je m'installe, la première réponse a été un peu hésitante. Là, ça ne va plus du tout être le cas. Hein. Donc, on est clair. Vous ne pouvez pas demander à Cyril Meunier qui a pris la commune la plus en danger de France et qui l'a mis en protection, en faisant le plus gros projet de protection urbaine depuis 40 ans en France, s'il a fait attention à l'inondation ou pas à l'inondation. Je fais attention à l'inondation, et mes collègues sont évidemment dans la même logique que moi, aussi bien en tant que maire, que vice-président de l'agglomération chargé des inondations, que président du CIBLE. L'ensemble du projet de l'avenue de la mer comme Ose ont été étudiés avec cette préoccupation de gestion des problèmes d'inondation. Revenons sur l'avenue de la mer, qui concerne aussi bien Christian à Pérol que moi. On est dans une logique où carrément on retire à terme de l'urbanisation pour reconquérir des bassins de rétention qui n'ont pas été respectés par le passé, avant même l'arrivée de Christian. Donc ni Christian ni moi, nous sommes en faute en la matière. Sur le reste, tout est ordonné autour du respect de la nature, de l'environnement et des problématiques d'hydraulique. Dernier point, aujourd'hui, les gars du TGV, Ogvia, certains services divers et variés, et RFF veulent me faire passer le TGV. J'ai dit oui, mais il est hors de question que cela se fasse au détriment de la protection hydraulique qui a été faite sur l'Atte, en particulier avec un pilier au milieu du Lez qui ne sont pas prêts de planter.
Bon, on va revenir à vos différentes communes, mais et tout d'abord au niveau de l'Atte et Pérol, peut-être, avant de parler, de reparler de Villeneuve. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, l'Atte comme Pérol, qu'en fait, vous êtes des quartiers de Montpellier ?
Oui, on est des quartiers de Montpellier, mais les quartiers peuvent avoir quand même gardé une âme, gardé un mode de vie.
Ça n'empêche pas que comme à Montpellier, il y a Pérol, il y a Boutonnet, etc., qui sont des quartiers qui ont gardé une âme, quelque part, ça c'est clair. Est-ce que vous ne seriez pas mieux d'être en fait des maires d'arrondissement ?
Mais non, mais attendez, moi je réponds pas à la même chose que Christian, même si on a la même opinion. On deviendra des quartiers de Montpellier, à mon avis, à l'horizon de 30 ans. Moi, je pose toujours la même question. Vous habitez dans un des villages autour de Montpellier, que ça soit Prades, que ça soit Moggio, que ça soit... Vous avez vu, volontairement, je suis sorti de l'agglo hein, avec Moggio. Vous habitez Frontignan, quand vous êtes à l'étranger ou quand vous êtes en vacances en France, les gens qui boivent l'apéro avec vous vous demandent t'es d'où toi ? De Montpellier.
Oui, oui.
Attends, mais c'est très rare que vous imaginez qu'on réponde Latte ou Pérol ou on va tomber sur un mec sur 100 qui va savoir de quoi nous parlons. Donc on est tous de Montpellier.
Est-ce qu'on fait partie de ces maires de l'agglo qui, à la limite, presque se flatte de la chose, c'est très bien, il faut aller de l'avant, et qu'à la limite, il faut aller jusqu'à Montpellier Métropole, etc. Ou est-ce qu'au contraire...
Se flatter d'être de l'agglo Montpellier ? Évidemment. Qu'on se flatte d'être de l'agglo de Montpellier, vous rigolez. C'est la meilleure agglo qui est en France. C'est celle qui crée le plus d'emplois, qui investit le plus, qui se développe. On est la 8e en matière de taille. On était, avant l'arrivée de Georges, on était la 23e. Enfin, je ne sais pas. Moi, je suis... Et je ne m'en cache pas. Je suis d'origine parisienne. À chaque fois que je monte, à chaque fois que je suis dans des déplacements professionnels, même à l'étranger, on en prend plein les oreilles. Ah, t'es de Montpellier. Ah, Montpellier, les trams, ah Montpellier, le Corum, ah Montpellier, le deuxième Zénith de France.
Non,
pourquoi voulez-vous qu'on ne soit pas flatté ?
Vous ne regrettez pas de ne pas avoir suivi Christian Jean-Jean en quittant l'agglo ?
Écoutez, moi je veux bien parler de Christian Jean-Jean, mais généralement c'est un sujet qui me laisse parfois sortir de mon droit de réserve qui devrait être le mien. Je pense que Christian Jean-Jean a fait une erreur fondamentale en faisant sortir Palavas de l'agglomération de Montpellier. D'abord parce qu'il nous a retardé sur les branchements sur Maïra. Ensuite, il y a eu différents nicroches. On ne va pas à la mer avec le tram, ce qui est une catastrophe, en particulier pour Christian et les péroliens. Je vous rappelle que je suis conseiller général, moi, de Pérol, de Palavas et de Latte. Non, il n'y a aucune raison à ce que Christian Jean-Jean soit sorti de l'agglomération. C'est pas Palavas qui est sorti, c'est Christian Jean-Jean qui est sorti.
Oui, sorti voilà. Contre Georges Frêche, mais Georges Frêche, bon, maintenant il n'y est plus, ça fait un petit moment quand même qu'il n'y est plus.
Il est sorti contre Georges Frêche ou pour Christian Jean-Jean ?
Bon, on peut le dire comme ça. Voilà.
Je pense qu'il est sorti pour Christian Jean-Jean. Il a fait sortir sa commune de l'agglomération pour lui-même. Bon, maintenant, je pense que le bilan politique de ces derniers combats prouve que c'était peut-être pas la meilleure solution et qu'il était peut-être pas obligé de condamner l'avenir de sa commune pour ses intérêts personnels, puisqu'au bout du bout, il n'est pas arrivé à ses fins.
Bon. Alors, je voudrais qu'on en vienne un petit coup là sur Villeneuve-lès-Maguelone.
J'ai presque envie de vous poser une question. Pourquoi ne serions-nous pas fiers d'être dans l'agglo ?
Ah bah parce qu'il y a des communes qui étaient dans l'agglo puis qui en sont parties. Mais on parlait pas là-bas,
pour quelle raison ? Pour quelle raison ?
Saint-Clément-de-Rivière,
au départ, il y en a eu 6 qui sont sortis.
Grâce à l'amendement blanc.
Grâce à l'amendement blanc qui a été pris en catimini à 4h du matin, l'assistance n'était plus que clairsemée dans l'hémicycle. Mais aujourd'hui, je repose la question, pourquoi ne serions-nous pas fiers d'être dans l'agglo ?
Non, ben, tout simplement parce qu'effectivement, dans certaines communes, on vous pose la question, tout simplement parce que dans certaines communes, certains parfois s'émeuvent du fait qu'il y ait justement des transferts de compétences d'une commune à l'autre, avec ce qui a parfois vu par certains comme quelque chose de très bien, et d'autres justement qui voient les choses différemment.
Vous dites en gros que
par exemple la fiscalité, ça peut être parfois la fiscalité.
Mais la fiscalité, on ne l'a pas déléguée. On n'a pas délégué la fiscalité. Alors attendez, on va...
Du morceau de la fiscalité.
Moi, je veux bien, mais bon, on ne délègue pas la compétence contre les inondations. La commune de Latte est incapable de faire les 50 millions de travaux. On est d'accord ? On ne délègue pas le sport de niveau. Latte n'est pas capable des 8000 habitants d'avoir une équipe en première division. On ne délègue pas les transports, on n'a pas le travail. On ne délègue pas les déchets. On fait comment pour faire partir le TOT de Latte ? Et comment on fait pour régler les problèmes des déchets et créer une usine de méthanisation aussi qualitative que celle qu'on a aujourd'hui, malgré toutes les conneries qui peuvent être racontées ? On ne délègue pas le développement économique. Je fais quoi, moi, avec ma petite commune, et encore, je suis la plus grosse derrière Montpellier, pour aider mes entreprises à aller exporter ou apporter une image? Non, mais attendez, il faut être sérieux. Il y a des débats rétrogrades et puis il y a des gens qui avancent. Et quand on avance, eh bien, on peut faire des erreurs, on peut se tromper. Allez, vous la voulez, on va vous la donner, votre CFE. On a fait une grosse connerie.
Non, mais ça, on va en parler après. On va y revenir parce qu'effectivement, ça mériterait de s'y attarder un tout petit peu. Je voudrais qu'on en vienne à Villeneuve-lès-Maguelone. Et là, c'est un truc qui est vraiment purement villeneuvois. Est-ce qu'il ne serait pas temps de brûler Gérard Buisson ?
Bah écoutez, moi, Gérard Buisson, je l'ai toujours respecté. Il n'est pas question qu'on le brûle.
Non ?
Mais non.
Non.
Pourquoi
bon.
Vous voulez le brûler ?
Ah, puis,
il a fait des choses sur Villeneuve-lès-Maguelone.
Et le cas sur Villeneuve, vous surnomme la Péponnette. Ça vous fâche ?
Pas du tout.
Bon ?
Pas du tout.
Alors, donc, vous êtes quand même quelque part l'héritier de Pépon, enfin, de Buisson.
C'est pas grave, il faut toujours être héritier de quelqu'un.
Bon.
Donc avec les erreurs et avec les choses qui ont été aussi réalisées.
Bon, De Seng, si tu nous entends.
Bon. S'il m'entend, il sait ce que j'en pense.
Et là, une question pour tous les trois, parce que là, au niveau de l'aglo, là, c'est quand même assez fondamental. Est-ce qu'il ne serait pas temps, maintenant, de brûler Georges Frêche ?
Je ne pense pas. Enfin, pour ma part, je ne pense pas. Je pense que Georges Frêche...
Parce qu'on fait les anniversaires, les machins, il a maintenant 12 000 statues, il a des rues, il a une station de tram, il a un lycée, il a... Bon, il ne serait pas temps de passer à autre chose.
Je crois que c'est un hommage qu'on doit lui rendre. Peut-être un jour ça s'arrêtera, mais je crois que comme tout homme qui a marqué un espace, une génération et plusieurs générations, moi je pense qu'il faut lui rendre cet hommage. Il y a des jeunes qui arrivent derrière, Cyril le disait tout à l'heure, Montpellier est une belle ville, mais c'est une belle ville pourquoi ? Parce qu'un homme, parce que des hommes, des femmes et des hommes ont construit cette ville et qu'aujourd'hui, elle est connue du monde entier. Voilà.
Cyril Meunier, alors, il faut le brûler, Georges Frêche ou...
C'est une question, j'ai failli vous dire sous mon ami Buisson, c'est pas respectueux de dire ça, ni Gérard dans toute l'humanité qui était la sienne, et Dieu sait que ça a été mon ami et que c'est mon ami encore... De cœur, Georges, c'est la même chose. C'est des types exceptionnels. Georges Frêche était un type exceptionnel avec son caractère, avec ses défauts, avec ses qualités. On prête plus aux morts qu'aux vivants, mais il a amené l'agglomération, enfin Montpellier, de 23e à la 8e place, dans un climat, je vous rappelle, des années 70. On est tous à peu près de la même génération ici. Rappelez-vous que depuis 1974, il y a eu le choc pétrolier quand même. Ce n'est pas été les glorieuses. 77...
C'est les 30 piteuses.
Voilà, dans les 30 piteuses, Montpellier a survécu. Il vaut mieux... Moi, je dis souvent à tous les râleurs, et puis je deviens de plus en plus acariâtre avec les années, mais je dis, il vaut mieux vivre la crise aujourd'hui en France que dans un autre pays. Il vaut mieux le vivre en Europe, ensuite en France, et ensuite il vaut mieux la vivre à Montpellier. Vous savez, j'ai 20 ans de consulting derrière moi avant d'être élu. J'ai parcouru le territoire français de long en large en faisant du consulting en développement local. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux être à Montpellier. Voilà.
Et Christian Valette, c'est vrai aussi, Christian Valette, il ne faut pas brûler Georges Frêche.
Alors d'abord, pourquoi voulez-vous le brûler ? Moi, j'ai travaillé...
Ah, moi, je brûle tout ce qui bouge. Les historiens. En 95, j'ai brûlé Brodel. Après, on a brûlé Bourdieu. Enfin, on brûle, non.
J'ai été élu en 89. Et j'ai commencé à travailler avec Georges Frêche dans le cadre du district. Je n'ai pas de carte de parti politique. Je suis apolitique. Mais je dois vous dire que...
Normalement, quand on dit apolitique, ça veut dire de droite.
Ça veut dire rien du tout.
Sur certains,
pas.
Ça veut dire de droite.
Apolitique, non, attendez. Apolitique, pour moi, ça veut dire ce que ça dit.
Chez les idéologues de gauche, ça veut dire de droite, apolitique.
J'ai travaillé avec Georges Frêche pendant 22 ans. Et je ne veux pas revenir sur le passé. On ne vit pas avec le passé. Mais la période de Georges Frêche a été une période extraordinaire. Tout ce qui a été réalisé ici, ville, région, agglomération, on le doit à Georges Frêche. Et je suis fier d'avoir travaillé avec M. Frêche. J'étais devenu fréchiste.
On tous un chèque, ce qui est.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.